Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Au cours des dernières semaines, nous avons été submergés par les catastrophes au Bangladesh, au Niger, dans les Caraïbes, en Floride. Les eaux sont montées et le ciel est tombé sur la tête des hommes. Des morts, des dégâts qui se chiffrent en milliards de dollars ou d'euros et l'annonce de catastrophes ultérieures pour cause de réchauffement climatique. Sans être maladivement pessimiste, on pourrait penser donc que tout va mal. Et pourtant, c'est inexact, en tout cas sur le plan économique. Car la planète semble s'être remise de la grande crise de 2008. Les taux de croissance ont recommencé à décoller. Aux États-Unis, des records sont battus. En Europe, même la Grèce est sortie de sa récession. En Afrique, le Nigeria et l'Afrique du Sud aussi. Alors, quelle est la mesure de ce mieux? Se fait-il au bénéfice de tous ou de quelques-uns? Quels sont les ingrédients qui ont permis aux économies les plus diverses de retrouver le chemin de la croissance? Quel rôle ont joué les banques centrales et quid des politiques gouvernementales? Toutes ces questions et bien d'autres pour les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Benjamin Coriat.
Bonjour.
Benjamin Coriat, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13. Vous êtes un spécialiste d'économie industrielle de l'innovation et vous êtes membre du collectif des économistes atterrés. On a l'impression que c'est un collectif pour lequel tout va toujours très mal.
Non, pas nécessairement. Il y a des bonnes nouvelles dont on se réjouit, mais il faut bien dire quand même qu'en ce moment, il n'y a pas de quoi sauter de joie.
Hein. Tout ne va pas bien.
Tout ne va pas bien.
On va voir ça.
Je pense qu'on va devoir nuancer.
On va voir ça. Avec nous dans ce studio également, Stéphane Colliac. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Colliac, vous êtes économiste senior chez Euler Hermès, un spécialiste de l'assurance crédit. C'est une filiale du géant de l'assurance allemand Allianz. Au sein de l'Euler Hermès, vous suivez plus particulièrement la situation économique de la France et de l'Afrique. Est-ce à dire que votre groupe regarde les marchés africains de très près?
Oui. Au sud et au nord, par tradition, au Maroc et en Afrique du Sud, mais de plus en plus au milieu aussi. Ce sont des marchés en forte croissance. Il y a eu des années difficiles récemment, mais la croissance est là dans de nombreuses zones en Afrique encore.
Et l'assurance crédit, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi comme métier?
L'assurance crédit, c'est la plupart du temps essayer de protéger les entreprises contre les risques liés à l'exportation. Donc les risques liés au taux de change, les risques liés à l'impayé qui est plus fréquent à l'extérieur du pays et la mauvaise information qui peut exister.
Alors au cours de cette émission, de très nombreux reportages dans des pays où l'économie se porte bien ou mieux. Nous irons en Thaïlande où nous attend Arnaud Dubus, à Melbourne en Australie pour retrouver Caroline Lafargue, à Montréal où nous avons rendez-vous avec Pascal Guéricola. Enfin, comme beaucoup de touristes cet été, nous prendrons rapidement le chemin d'Athènes où la croissance est de retour. Alors, il y a une évidence que vous ne contesterez pas, Benjamin Coriat, on est à Paris. Donc on va commencer par parler de l'économie française. 81 000 emplois créés au cours du deuxième trimestre 2017, selon l'INSEE, un satisfait site tout récent de l'OCDE, un plus vieux de l'UFMI. L'économie française ne va pas mieux pourtant?
Ben, il y a un mieux en termes de croissance, je crois que c'est pas contestable. Après quasiment 8 années de stagnation quasiment complète. Bon, maintenant, il faut, comme toujours, il faut s'interroger sur qui sont les gagnants, qui sont les perdants de ce petit regain. Et pour le moment, je crois que chez les plus démunis, on n'a pas lieu de se réjouir tant que ça. En plus, si on regarde les dernières mesures, je crois qu'il y a plusieurs études qui ont montré que 10% des plus riches vont bénéficier de 40% des transferts qui vont être effectués à l'occasion des réformes fiscales. Donc, je veux dire, il faut toujours regarder derrière la macroéconomie.
Stéphane Colliac, l'économie française va mieux? Est-ce qu'elle crée des emplois? Ça, c'est indéniable. Est-ce qu'on est dans un cercle vertueux?
Oui, parce que ces créations d'emplois concernent aussi le secteur de la construction. Et ça faisait plus de 10 ans que la construction ne créait plus d'emplois. Et ça, c'est un élément majeur parce qu'on a un cycle qui concerne les entreprises. Il faut rappeler que les retards existaient aussi de ce côté-là, puisque fin 2016, en volume, l'investissement des entreprises n'était pas tellement plus élevé qu'en 2007. Donc c'est quand même un retard aussi supplémentaire à noter.
Et donc ça veut dire avant la crise.
Voilà, exactement.
Avant la grande crise.
Exactement. Donc on est passé par plus bas, on est remonté un peu, mais on n'était pas plus haut que fin 2007. Aujourd'hui, il accélère. Et l'investissement des ménages accélère également. Donc c'est, ça, ce sont deux éléments très positifs pour la croissance. Et le fait qu'on ait ces éléments-là, ça peut donner quelques trimestres plus compliqués pour la consommation, puisque les ménages sont obligés de faire des économies, n'ont pas forcément les ressources pour tout faire.
Vous dites que les ménages investissent, mais que ça, qu'ils vont pas consommer. L'investissement des ménages, c'est quoi ?
Ben, c'est des achats de biens immobiliers. Donc ça soutiendra la construction, puisqu'il y a rareté des biens immobiliers dans beaucoup d'endroits. On va parler d'autres pays dans la suite de l'émission, mais la France n'en est pas au même point, mais elle est plutôt en début de cycle. Mais le cycle de la construction recommence, l'immobilier fonctionne, les prix sont à la hausse, il y a rareté des biens, donc il va falloir construire. Mais ça veut dire aussi que les ménages n'ont pas forcément les moyens pour faire tout. Donc ils vont devoir faire des économies, et c'est ce qu'ils font à court terme sur leur consommation. Ils croient moins cette année que l'année dernière, paradoxalement, alors que l'investissement, lui, progresse davantage.
Benjamin Coriat, est-ce que le contexte européen a été important pour cette reprise de la croissance française ?
Mais il a surtout été important pour, pendant des années, empêcher toute reprise. Hein. Je veux dire que le pacte budgétaire, les contraintes de 3%, etc., qui heureusement, dans un certain nombre de cas, n'ont pas été respectées, comme d'autres contraintes, hein, par les Allemands, n'ont pas été respectées, c'est-à-dire que la limite de 6% d'excédents commerciaux a jamais été respectée par les Allemands, qui sont des grands donneurs de leçons par ailleurs. Bon, donc, pendant très longtemps...
Ce que vous dites, c'est que les Allemands exportent tant et plus, ont des excédents qu'ils n'investissent pas.
Ben, non seulement je dis ça, mais puisque c'est un fait, hein, puisqu'ils sont à quasiment plus de 8% maintenant d'excédent, mais que c'est l'un des critères à imposer aux pays européens de manière à assurer un minimum de cohérence et de convergence. Et les Allemands sont les premiers à ne rien respecter. Bon, donc je veux dire, ils sont très mal indiqués pour exiger des autres.
On ne va pas engager un débat sur la politique allemande.
Non, bien sûr.
Est-ce que l'Allemagne ne contribue-t-elle pas à la bonne santé de l'économie européenne ?
Elle devrait contribuer bien davantage au regard de ses performances. Ça veut dire qu'il y a 3% de ses excédents qui devraient être investis. Alors, à commencer par l'économie allemande, hein. On lui demande pas nécessairement d'investir ailleurs, hein, mais ça bénéficierait à l'ensemble de l'Europe. Bon, en tout cas, pour répondre à votre question, il semble que le carcan qui a été imposé pendant 7 ou 8 ans et qui fait que l'Europe sort beaucoup plus tard de la récession que tous les autres pays est en train de se desserrer un tout petit peu.
C'est votre avis, Stéphane Colliat, qu'il y a un carcan qui se desserre ?
Il y a un carcan, oui, qui est lié aussi aux divergences qu'on peut observer dans la zone euro. Oui. On a une monnaie unique, mais on a des pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de revenus, qui n'ont pas les mêmes spécialisations. Et donc on a une Allemagne qui a eu une récession en 2009 parce que le commerce mondial s'est effondré et que c'était normal, mais qui après n'a pas connu la récession en 2011 au moment de la crise de la zone euro, alors que l'Espagne et l'Italie oui, et on avait une même politique monétaire pour tous et beaucoup de retard dans la mise en place d'un quantitative easing comme il avait été fait aux États-Unis.
Le quantitative easing, c'est la politique d'assouplissement monétaire mise en place par la Réserve fédérale américaine puis par la Banque centrale européenne. Oui. Est-ce que cette politique d'assouplissement monétaire a été importante en Europe pour ce mieux que nous constatons ?
Pas énormément, puisque c'est venu avec beaucoup de retard. Donc ça a accompagné la reprise, mais la reprise était là déjà en Espagne avant le quantitative easing, par exemple. Alors, en Italie, elle traîne beaucoup plus parce qu'il y a toujours le dossier bancaire à régler, qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau des finances publiques qui bloquent la croissance italienne. Mais la croissance espagnole était repartie avant le quantitative easing.
Benjamin Coriat.
Moi, j'ai une appréciation un peu différente. Hein. Je pense que compte tenu du blocage qu'on avait au niveau des politiques budgétaires, il restait plus que le levier proprement monétaire. Alors, dans un certain nombre de cas, une petite reprise a précédé le quantitative easing.
Mais easing, je répète que c'est l'assouplissement monétaire, c'est-à-dire la banque centrale qui injecte des liquidités.
Qui achète de la dette publique.
qui achètent de la dette
qui
publique.
Qui achètent de la dette publique en masse.
Et, donc, et voilà. C'est en fait une injection de liquidité dans l'économie.
Oui, je veux dire, ça a certainement joué un rôle important. Par ailleurs, ça crée des problèmes, parce que il y a des bulles qui se sont formées un peu partout, et on va voir ce qui va se passer. Mais, je veux dire, c'est tellement important que, encore aujourd'hui, Draghi n'est pas prêt à lâcher.
Draghi, qui est le président de la Banque centrale,
n'est pas prêt à lâcher sur sa politique monétaire. Alors que ça a été anticipé dans des pays comme l'Espagne, etc. En plus, moi, ça me fait presque sourire quand on parle de la reprise en Espagne ou en Grèce. On va en parler dans un moment. Dans des pays qui, en tout cas pour la Grèce, sont dévastés et qui pour l'Espagne sont dans une situation catastrophique. Alors effectivement, je veux dire, un peu mieux que zéro, c'est mieux que zéro. Voilà.
Sur cette politique monétaire européenne, Stéphane Colliac, vous pensez que, en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'elle était très limitée dans son impact.
Oui.
Le fait de la poursuivre, ça correspond à quelque chose ?
Ça correspond au fait qu'on ait un euro qui s'apprécie et qu'on n'ait pas envie de resserrer la politique monétaire parce que ça ferait encore plus apprécier l'euro. Donc il est urgent d'attendre et de ne pas annoncer trop tôt qu'on va resserrer la politique monétaire. Sur la politique budgétaire qui n'a pas pu aider pendant les crises, si la politique monétaire était venue plus tôt, en achetant des dettes publiques au moment où investisseurs privés n'étaient pas très volontaires pour le faire, ça aurait permis de maintenir des déficits publics de façon plus soutenable et donc de relancer la croissance.
Sur ça, je suis parfaitement d'accord. Malheureusement, la Constitution européenne l'empêchait.
Vous parliez de la Grèce, Benjamin Coriat, il y a un instant, dans la foulée de la crise mondiale, beaucoup d'auditeurs de RFI s'en souviennent, éclatait la crise grecque, c'était en 2009. On découvrait l'énorme déficit des comptes publics grecs qui avaient été maquillés. En retour, des plans d'austérité très durs, vraiment très durs pour la population. Aujourd'hui, le gouvernement table sur une croissance de 1,8% pour 2017 et le chômage, qui est toujours très élevé, a brutalement reculé ces dernières semaines. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Charlotte Stivenard à Athènes.
Des petites gouttes de cire brillante tombent à un rythme régulier sur un tapis roulant. L'entreprise de Iota Nicolodia s'est spécialisée dans les produits d'épilation. Cela a commencé il y a 7 ans et elle a aujourd'hui 20 salariés.
Chaque année, les commandes sont plus nombreuses. Nous avons déjà 60% du marché grec et si on parle exportation, 70% de notre production part à l'étranger.
Même si cette entreprise a peu souffert de la crise grâce à ses exportations, cette année, les commandes sont particulièrement bonnes.
Je pense que l'économie du pays rentre dans l'ordre. Donc, inévitablement, les entreprises, les organismes, les usines, tout ça, nous attendons désormais un plus grand soutien de l'État. Quand tu vois que les comptes de l'État s'améliorent, bah, tu attends que la taxe sur la valeur ajoutée qu'il te doit soit remboursée.
À l'Université économique d'Athènes, Yannis Ralikias, professeur spécialisé dans les exportations, confirme que celles-ci ont augmenté de 8,3% par rapport au premier semestre de 2016. Pour lui, c'est une année positive pour les exportations de biens et de services.
Les services, ce sont les deux éléments connus, le tourisme et la marine marchande. Les exportations de biens progressent, car il y a de très bonnes infrastructures pour cela. La qualité est au rendez-vous et la diminution du coût de travail a aidé. En d'autres termes, les entreprises grecques ont gagné en termes de compétitivité.
Selon lui, l'amélioration en Grèce ne tient pas forcément aux politiques d'ajustement budgétaire, mais plus à l'amélioration du contexte international. Autre point positif, après un bref retour sur les marchés cet été, la semaine dernière, le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est aussi félicité du retour des investissements au plus haut depuis 10 ans. Konstantinos Botopoulos, analyste et ancien président de l'autorité des marchés financiers en Grèce, détaille les secteurs qui attirent.
Le tourisme, l'agroalimentaire, l'énergie, les transports, c'est aussi très important. Les Français sont impliqués, les Italiens sont impliqués. Hein. Les infrastructures ne sont pas toujours au point, donc il y a aussi beaucoup à faire.
Mais la croissance est fragile et ces chiffres positifs ne sont pas toujours tangibles dans l'économie réelle. Un peu plus d'une personne sur cinq est toujours au chômage en Grèce et la consommation pilier de l'économie du pays augmente, mais à petits pas. Beaucoup de Grecs ont perdu jusqu'à 40% de leur salaire en 7 ans.
Un reportage à Athènes signé Charlotte Stivenard. Stéphane Colliac, la Grèce est sortie d'affaires ?
Alors, sortie d'affaires, on ne va pas aller jusque-là, mais que la croissance revienne à un moment où la croissance revient dans le monde entier, que le commerce international dans le monde réaccélère et que la croissance en zone euro particulièrement accélère également, c'est un peu normal que la Grèce revienne à la croissance. Mais il faut remarquer que le PIB était quand même nettement en dessous du niveau d'avant-crise et qu'il mettra énormément de temps à revenir au-dessus et que la dette reste très élevée et qu'il faudra probablement rediscuter de la dette publique grecque.
Vous parliez de l'accélération de la croissance en zone euro, on en est à quel niveau à peu près ?
Alors on va probablement atteindre 2,1% de croissance en 2017 en zone euro. Et d'après nos calculs, on devrait
Les calculs de l'RMS.
Voilà, exactement. On devrait être légèrement au-dessus de la croissance américaine cette année. Et ça serait pour la deuxième année consécutive. Donc c'est quand même pas neutre. C'est nouveau et c'est pas exactement la vision qu'on a habituellement de la zone euro.
Benjamin Coriat, un mot sur la Grèce et puis après on reparle de la croissance en zone euro.
Oui, bon, bah écoutez, il y a un tout petit mieux, tant mieux, dans un environnement qui est favorable. Mais je pense que la purge qu'on a imposée à la Grèce, c'est qu'on vient de reconduire. C'est ça qui est absolument énorme. C'est-à-dire qu'au moment où l'Union européenne devait s'exécuter concernant la dette, précisément...
C'est-à-dire s'exécuter concernant la dette.
S'exécuter concernant la dette, c'est-à-dire envisager un moyen de réduire la dette, en contrepartie de l'ensemble des efforts qui avaient été... les Allemands n'ont rien trouvé. J'ai rien contre l'Allemagne, hein, mais en l'occurrence, il y a une politique dont il faut qu'on parle. Les Allemands n'ont rien trouvé de mieux que de dire « Ah ben tout ça, c'est très bien, il y a 3,5% d'excédent budgétaire dans un pays exsangue. 3,5% d'excédent budgétaire dans un pays exsangue. » n'a rien trouvé de mieux que de dire « Ok, c'est très bien, donc on renouvelle ça jusqu'en 2022 alors que ça devait s'arrêter en 2018. » Bon, donc je veux dire, c'est un petit miracle s'il y a quelque chose qui va mieux. Mais je crois que si on interrogeait d'autres gens que quelques exportateurs en Grèce, je pense qu'ils auraient un point de vue un peu différent.
Alors, sur la zone euro, qui va quand même beaucoup mieux.
Oui, la zone euro va un petit peu mieux. Oui, oui, les chiffres qui ont été donnés sont tout à fait significatifs. C'est vrai que c'est plaisant d'entendre que l'Union européenne a un taux de croissance supérieur à celui des États-Unis. Donc, il semble que, voilà, les carcans, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les carcans qui ont été imposés commencent à céder, hein, d'une certaine manière.
Le carcan austéritaire.
Le carcan austéritaire, oui, est lié au pacte budgétaire consécutif à la crise que l'Europe est le seul à s'être imposé. Tous les autres ont au contraire plongé dans les déficits comme moyen de revenir à la croissance et ensuite d'éponger les déficits. L'Europe a suivi un sentier tout à fait à part et semble-t-il en train d'en sortir. Il faut s'en réjouir.
Mais est-ce que l'Europe, pour revenir à la crise de 2007-2008, est-ce que l'Europe est à l'abri d'une nouvelle secousse de cette ampleur-là ?
Non, je ne crois pas. Je veux dire, il y a plusieurs études qui s'inquiètent des bulles financières qui sont créées et qui s'inquiètent des menaces de déréglementation financière qui viendraient de Trump. Hein. Janet Yellen, donc la présidente
de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale.
Voilà. Au cours de la dernière réunion des banquiers centraux qui s'est tenue il y a quelques jours, a fait toute une série de commentaires plus ou moins explicites sur le fait de surtout toucher pas à la réglementation financière.
Parce que sinon, Stéphane Kolyak, on est à l'abri en Europe d'une nouvelle secousse aussi importante que celle de 2007-2008.
Alors, si la secousse vient des États-Unis, à peu près personne n'est à l'abri d'une secousse qui vient des États-Unis. Ceci dit, aujourd'hui, les risques ne sont pas exactement les mêmes que ceux de 2008. En 2008, on avait une économie mondiale qui tournait beaucoup trop vite, avec une production qui dépassait la consommation dans beaucoup de zones, dans beaucoup de stocks, une surévaluation des marchés de dette américains qui était énorme, avec une déréglementation qui avait précédé d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, on parle de déréglementer, on n'en est pas encore à la bulle qui suivra la déréglementation. Donc on est quand même un peu plus tôt par rapport à d'éventuelles difficultés.
Non, Benjamin Coll, un dernier mot.
Oui, je suis d'accord sur ce point, mais il ne faut pas du tout sous-estimer l'ensemble des bulles provoquées par les politiques monétaires et de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale européenne. Donc c'est pas la même situation et c'est pas la même origine. Mais
on en reparle dans la deuxième partie de cette émission, okay. Parce que nous avons rendez-vous pour l'instant avec un flash d'actualité. On vous retrouve tout à l'heure dans quelques minutes. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Bonjour.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, un programme très ambitieux, faire le point sur l'économie mondiale qui va mieux. Nous avons commencé au cours de la première partie en parlant de ce qui se passe en France et dans la zone euro en particulier. Deux invités dans ce studio, les économistes Stéphane Colliac pour l'assureur Crédit Euler Hermès et Benjamin Coriat, professeur à l'Université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés. Alors avec vous, messieurs, on va élargir le cadre. Si on prend les choses de manière très large, plus large que le simple continent européen, il y a un chiffre, 4%. 4%, c'est la hausse du produit intérieur brut mondial enregistrée entre les mois de mars et de juin de cette année. 4% de hausse du PIB mondial, ça veut dire quoi, Stéphane Colliac? Est-ce que ça correspond à quelque chose?
Oui, ça correspond à une situation qui s'améliore, mais pas exactement partout de la même façon. On a une synchronicité qu'on doit constater de la croissance aux États-Unis, en zone euro, au Japon et en Chine, soit dans les quatre principales économies au deuxième trimestre, et c'est ça qui fait les 4% pour l'essentiel. Et après, on a les pays émergents qui étaient en crise pendant 2 ans, qui en sortent de leur crise. Donc ça, c'est le Brésil, la Russie, qui sont revenus à la croissance déjà au premier trimestre, et l'Afrique du Sud et le Nigeria qui s'y ajoutent, qui sortent de récession, eux, au deuxième trimestre. Ça nous fait plus de croissance. Mais par ailleurs, dans les pays émergents qui n'étaient pas en récession, qui n'étaient pas en crise, la croissance ne s'accélère pas particulièrement. Donc c'est vraiment un retour de « big is beautiful », ce sont les gros qui croissent et ce sont les gros qui font la croissance de l'économie actuellement.
Benjamin Coriat ?
Non, moi je suis d'accord avec ça.
Mais le fait que ce soit les gros qui progressent encore le plus, c'est une injustice ?
Bah, ça dépend. Le fait que ce soit les gros qui progressent le plus, évidemment, ça peut poser un problème sur l'équilibre de l'économie mondiale. Mais il faut toujours... Et c'est ce que je disais déjà précédemment, il faut toujours regarder la composition de la croissance, y compris chez les gros, et à qui ça profite. Bon, moi je pense quand même que on sort d'une période, hein, la période pendant laquelle la Chine croissait à des taux extrêmement forts et tirait avec elle une partie des économies de l'Asie, du Sud-Est et de l'Asie.
Et de l'Afrique.
Et de l'Afrique, d'ailleurs, oui, absolument. Ça peut être une bonne chose si on va vers des taux qui sont, on va dire, plus raisonnables et sur des équilibres qui sont mieux maîtrisés, mais ça peut aussi provoquer des craquements, hein, parce qu'y a beaucoup d'économies, notamment exportatrices de matières premières, qui ont vécu sur cette tirée, si je peux dire, de la Chine. Donc, moi, je pense qu'on est dans une période un peu indécise. Ça veut dire que on sort d'un train dont on connaissait
d'une tendance
on connaissait et les aspects positifs et négatifs. Je pense qu'on rentre dans quelque chose d'un peu différent.
L'un des pays où cela va très bien, c'est le Canada, le pays du G7 avec la croissance la plus importante, 4,5% depuis le début de l'année. Les exportations vers les États-Unis vont bien, grâce notamment à un faible taux de change entre le billet vert et le dollar canadien. Les consommateurs semblent confiants et investissent beaucoup dans l'immobilier. Au Québec, le nombre de chantiers a augmenté de 11% en un an, à la grande satisfaction des entrepreneurs locaux. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pascal Guéricola.
Difficile de trouver une rue de la ville de Québec ou de Montréal sans travaux routiers majeurs ni construction de bâtiments. Ce secteur, qui représente 7% de l'économie de la province, a le vent dans les voiles, comme le constate Guillaume Bouchard. Il surveille les travaux d'une maison construite en plein centre-ville de Québec.
Nous, on fait l'isolation pulvérisée à mousse de polyuréthane. Présentement, là, ce qui marche beaucoup là, dans la ville de Québec, c'est bâtiments en location, là, des multilogements, beaucoup d'appartements, tout ce qui est résidence de personnes âgées, 300 unités, ainsi de suite, là, des grands projets, là, il y en a beaucoup. La Ville de Québec, c'est plein emploi présentement, que ce soit en restauration, en construction, dans toutes les différents, en technologie, tous les différents corps de métier là, qu'on peut avoir dans toutes les sphères de la société. Tout le monde travaille, ça c'est sûr.
Couvert d'une fine poussière de polyuréthane, un des ouvriers d'isolation R+ approuve son patron.
Oh oui, tout le monde travaille, là. Il n'y a pas personne qui ne travaille pas. Là. L'économie va bien. C'est sûr qu'il y en a qui s'asphalte, qui sont bons, qu'eux autres vont travailler beaucoup l'été, puis l'hiver vont être sur le chômage. Là. Mais ça vient bon. Oh, je vais vous laisser, je vais aller prendre une petite gorgée d'eau.
Seulement au Québec, une dizaine de milliards de dollars vont être dépensés par les pouvoirs publics, notamment pour refaire les routes, les autoroutes et même un des principaux ponts de Montréal. Des activités qui ont des répercussions sur l'emploi, mais aussi sur les revenus des particuliers, comme le fait remarquer Alejandro Montero. Son entreprise Tergos construit et rénove des maisons écologiques et connaît une croissance de 15 à 20 par an depuis 5 ans.
Les travaux que les gens voulaient entreprendre étaient de plus en plus gros. C'est des clients qui, oui, ont accès à des plus grandes sommes. Oui, des clients qui veulent investir dans l'immobilier. On a le taux le plus bas de chômage du pays au complet, là, d'est en ouest. On a un taux de chômage à 3,8-3,9%. La ville travaille à 100%.
Reste à savoir si cette croissance va durer au Canada alors que les taux des prêts hypothécaires viennent d'augmenter. Une hausse qui se limite cependant pour l'instant à moins d'un demi pour cent.
Un reportage signé Pascal Guéricola à Montréal. Benjamin Coria, ça fait rêver, 3,9% de chômage, le plein emploi, des croissances à 15% par an d'entreprise. C'est le monde
non,
idéal.
C'est non, je crois que dans cette partie-là du monde, enfin en particulier au Québec, mais plus généralement au Canada, je crois que ça va incontestablement mieux. Bon, maintenant, ce qui a été dit, c'est que il y a un boom, notamment dans l'immobilier, qui est aussi alimenté par de la dépense publique hein, sur les infrastructures dans la construction. Pour le moment, ça tourne. La question qui est derrière, c'est n'y a-t-il pas un risque de bulle immobilière? Voilà, c'est la question qui est derrière. D'une part, et puis d'autre part, mais ça c'est plus profond. C'est ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est la remise en cause du traité de libre-échange par Trump.
Alena, Mexique, voilà, États-Unis, Canada.
Voilà, qui risque, on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais il est très imprévisible, qui risque d'introduire de sérieux grains de sable dans tout ça. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop.
Alors Stéphane Colliac, chez L'Air Hermès, vous avez le nez sur les entreprises dans le monde entier, des entreprises comme celle dont on a entendu le patron s'exprimer, qui parle d'une croissance de 15% par an depuis 5 ans. Enfin, je crois que c'était Pascal Guéricola qui évoquait ces chiffres. Vous en avez beaucoup dans votre portefeuille?
Alors, on n'en a pas partout, clients. Non. On n'en a pas partout. Et parfois, quand on a des croissances à ce niveau-là, c'est très bien, parce que bon, il y a plus d'affaires, plus de volume d'affaires, mais il peut y avoir aussi plus de risques. On peut citer aussi l'exemple de la Chine où parfois on a ces croissances-là de chiffre d'affaires, mais on a aussi des croissances de défaillances d'entreprises qui sont 15% par an en ce moment. Donc on peut parfois avoir les deux en même temps. Et particulièrement au Canada, ce qu'on peut noter, c'est que le pays avait souffert de la baisse du prix du pétrole, puisqu'ils avaient beaucoup développé ce secteur-là, et donc a eu très peur pour sa croissance, a beaucoup relancé par la politique budgétaire et par la politique monétaire. Et ça a développé on va pas dire une bulle, puisque la bulle, on sait toujours quand elle éclate, si c'était vraiment une bulle, mais une très forte hausse des prix immobiliers. Et ça, c'est quand même un peu dangereux, surtout si on a quelque chose qui se passe dans le pays voisin. On parlait des risques liés aux politiques de Trump aux États-Unis. Ils existent. Et le Canada serait le premier impacté, vu la situation de forte croissance et probablement un tout petit peu de surchauffe économique dans laquelle il se trouve.
Mais c'est l'ensemble États-Unis-Canada qui va bien, ou c'est où le Canada est vraiment au-dessus en termes de croissance et de performance économique au-dessus des États-Unis?
D'un point de vue conjoncturel, incontestablement, le Canada est devant. La croissance est à peu près le double, si on mesure ça à peu près. Donc, conjoncturellement, oui. Après, il y a eu un passage plus difficile au Canada qu'aux États-Unis au moment de la baisse du prix du pétrole. En moyenne, ça se vaut, mais conjoncturellement, ça va beaucoup mieux au Canada, oui.
Alors, c'est la mondialisation dont on parle. On parlait de l'ALENA, des exportations, de la zone euro. La CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, vient de publier un rapport très sévère sur la mondialisation. Elle y parle d'hypermondialisation et de grandes entreprises qui raflent la mise. Écoutez ce qu'en dit l'économiste Rachid Bouya, un des auteurs de ce rapport qui était de passage à Paris cette semaine.
L'hypermondialisation, justement, elle a mené à certaines inégalités. Donc elle a permis la florissance de certaines pratiques de recherche de rente, telles que l'évasion fiscale, l'utilisation de stratégies de fusion-acquisition agressives, ainsi que l'utilisation abusive de droits de propriété intellectuelle. Et on a vu vraiment, le rapport le montre, que cette concentration a augmenté très fortement cette dernière décennie. au point que, en fait, elle est même visible dans l'évolution des profits des grandes entreprises multinationales.
Vous pensez à Apple, Google, etc.
Exactement. Dans le secteur de la technologie de l'information, on a Apple, Alphabet, Google. Donc, la plupart de ces grandes entreprises, en fait, on voit que la part de ce qu'on appelle les profits excédentaires, donc des profits qui ne sont pas liés à l'utilisation du capital ou du travail, a augmenté très fortement. Par exemple, sur l'ensemble des 100 premières entreprises, donc ces entreprises superstars, comme on les appelle, la part des profits excédentaires était de 19% en 95, et aujourd'hui, elle atteint 40%.
Stéphane Colliac, ces grandes entreprises que cite Rachid Bouya, ce sont des empires, autant que des nations, sur le plan économique.
Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que elles savent vivre avec la mondialisation actuelle, et que nous, ce que nous pensons, c'est que il y a peut-être un manque de négociations sur le plan international. Il n'y a pas d'accord de libre-échange depuis le dernier en 1995 à peu près. Donc, depuis la création de l'OMC, on n'a rien négocié. Alors, est-ce qu'il faut plus libéraliser ou plus contrôler? Ça, on peut débattre, mais quand on n'a pas de cadre de négociation et qu'on laisse les entreprises face au pays, ou qu'on laisse un grand pays face à un petit sans négociation à côté de ça, on se retrouve face aux puissants qui gagnent par rapport aux plus faibles. Donc c'est un peu normal.
Est-ce que ce sont pas ces entreprises-là, Benjamin Coriat, qui bénéficient le plus de cette reprise de la croissance mondiale? Ou est-ce qu'elles en sont les acteurs et les moteurs?
C'est les deux à la fois, hein, j'ai envie de dire. Hein. Je crois que c'est à la fois celles qui en bénéficient le plus, on va revenir sur certains aspects, et à la fois, effectivement, elles sont un accélérateur, hein, si je peux dire, des éléments de croissance qui sont présents. Alors, ce qui est extrêmement embêtant, hein, ce qui est extrêmement embêtant, en particulier pour ce qui concerne ces grandes entreprises des technologies de l'information, ce qu'on appelle les GAFAM, hein, Google,
Amazon, Facebook, Apple,
etc. Ce qui est extrêmement embêtant, c'est la manière dont elles tirent parti des failles gigantesques de l'économie mondiale pour maximiser leurs revenus et surtout pour pas payer d'impôts. Je veux dire, on est quand même dans une situation totalement folle. Hein. Que serait l'économie mondiale, y compris en termes de croissance, hein, sans le welfare state, c'est-à-dire sans les entreprises cotisant avec à partir de leurs impôts sur les bénéfices. On est dans une situation dans laquelle les grands géants de l'économie mondiale ne payent plus d'impôts. Qu'aurait été l'économie mondiale si Ford, General Motors, Caterpillar, etc. n'avaient pas payé d'impôts pendant 30 ans? On est là. Bon, alors on est là à la fois parce qu'elles ont cette habileté, si je peux dire, à la fois parce qu'il y a ces failles dans l'économie mondiale, et à la fois parce que on a instauré dans la nouvelle économie mondiale une course vers le bas des taux d'imposition, et on est toujours dedans. Et évidemment, c'est les moins 10 ans qui finissent par gagner et qui gagnent. Regardez le cas de l'Irlande avec ses 12% d'impôts sur les sociétés et tous les rescrits fiscaux qu'elle fabrique par derrière, c'est-à-dire qui permet de même pas payer les 12%, mais ils sont en train de détruire d'une certaine manière la fiscalité des pays européens. Et ça, c'est très grave. J'entends dire oui, on va baisser l'impôt sur les sociétés, on arrive vers 25%, c'est-à-dire la moyenne européenne. Oui, bien sûr, avec 12% et quasiment zéro en Irlande, avec quelques pourcents au Luxembourg, ça veut dire quoi la moyenne européenne? Rien du tout, rien du tout.
C'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la situation de l'économie mondiale avec Benjamin Coriat et Stéphane Colliac. L'une des économies asiatiques qui se porte bien, on parlait de la Chine tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'économie chinoise qui se porte bien, c'est l'économie thaïlandaise. Les exportations y représentent environ 60% du produit intérieur brut. L'économie thaïlandaise est donc très très réactive aux évolutions de l'économie globale. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Arnaud Dubus à Bangkok.
Ces trois dernières années, les exportations thaïlandaises se sont accrues à un rythme très modeste, non pas parce que le pays est dirigé par une junte militaire, mais plutôt à cause du contexte économique global. Mais depuis le début de l'année, les exportations ont augmenté de 8,2% par rapport à la même période l'an dernier. C'est le meilleur résultat depuis 4 ans. Écoutons Kirida Baopichit, directrice à l'Institut thaïlandais de recherche pour le développement.
Quand l'économie globale se redresse, particulièrement les États-Unis, l'Europe et le Japon, qui sont les principaux marchés d'exportation de la Thaïlande, eh bien, les exportations thaïlandaises augmentent aussi sur ces marchés. Ces pays qui ont aussi contribué aux économies de l'ASEAN, qui est aussi un marché d'exportation pour la Thaïlande, ils ont aussi contribué à l'économie de la Chine, qui est également un marché pour les exportations thaïlandaises.
Cette croissance des exportations a aussi un effet positif sur la qualité des industries thaïlandaises. On retrouve Kirida Baopichit.
Pour pouvoir exporter, nous devons être compétitifs, ce qui veut dire que nous devons être meilleurs que nos concurrents. Cela pousse les entreprises thaïlandaises à s'améliorer pour être compétitives sur le marché global. Et donc, soit elles améliorent leurs produits, soit elles quittent la Thaïlande pour s'installer dans d'autres pays qui, par exemple, sont plus avantageux au niveau des coûts de production.
D'autres économies sont toutefois moins positives car les industries d'exportation en Thaïlande sont tributaires des investissements étrangers. C'est l'avis de Pavida Pananon, professeur d'économie internationale à l'université Thammasat.
Ce qui m'inquiète à long terme, c'est que nous n'avons pas mis en place un nouveau modèle de développement. Nous dépendons encore beaucoup d'une croissance tirée par les exportations et cette croissance dépend toujours des investisseurs étrangers. Je pense qu'à long terme, les entreprises thaïlandaises doivent être plus actives et doivent augmenter leur niveau de contrôle en concevant de meilleurs produits, en fabriquant des produits avec une plus forte valeur ajoutée qui pourrait être exportée.
Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'industrie automobile, des composants pour ordinateurs et des produits électroniques, pour lesquels la Thaïlande joue surtout un rôle de sous-traitant des multinationales.
Un reportage signé Arnaud Dubus à Bangkok. Stéphane Collia, on a l'impression qu'il y a dans cette croissance économique des pays relais, comme la Thaïlande, qui est un peu un atelier des grands pays industriels. Sous-traitant, disait Arnaud Dubus.
Oui, il y a des chaînes de production qui existent et il y a des donneurs d'ordre et il y a des pays qui modifient une partie du bien et qui réexportent ensuite cette partie modifiée vers un autre. Et là, que la Thaïlande bénéficie du rebond du commerce international, c'est normal. Ce qu'on estime, nous, c'est que la croissance du commerce mondial devrait être de 7% en valeur en 2017.
Donc c'est colossal.
C'est pas loin des moyennes d'avant-crise. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi un rebond parce qu'il y a beaucoup de composants de prix dans cette progression du commerce, puisque les prix avaient baissé en raison du choc sur les matières premières en 2015 et en 2016. Les prix rebondissent, ça aide quand même. Mais il y a aussi 4% de volume au niveau du commerce mondial, de croissance. Donc c'est pas que des prix. Et l'Asie, particulièrement, c'est une zone très, très ouverte où on a ces chaînes de production très importantes qui existent. Il y a la chaîne de production américaine qui se passe beaucoup en Asie. Il y a des chaînes de production coréennes aussi, des chaînes de production japonaises, de plus en plus des chaînes de production chinoises, qui intègrent un peu moins les autres pays que ce que ne font les autres chaînes de production. En tout cas, toute la dynamique d'intégration régionale, elle existe parce que Samsung va utiliser 10 pays pour produire son portable.
Benjamin Coriat, on se demande, et les Africains, quand est-ce qu'ils vont intégrer ces chaînes de production?
Malheureusement, effectivement, c'est pas encore le cas, hein, ou en tout cas, très peu. C'est vrai que l'Asie, comme ça a été dit, en tout cas cette partie de l'Asie, est en plein développement et en pleine division internationale du travail et une division qui marche. Hein. Bon, maintenant dans le cas de la Thaïlande, ça a été un peu mentionné hein, dans le reportage. C'est vrai que ce qui est préoccupant, c'est deux choses. Bon, c'est un l'instabilité politique hein, parce que malgré tout, ça risque de peser à un certain moment et lié probablement à cette instabilité. L'absence de projet d'ensemble hein, pour cette société, à part être une base de réexportation et de tourisme. Bon, et c'est vrai que être inséré dans des chaînes a des aspects positifs, mais pas seulement, parce que on reste dépendant des donneurs d'ordre, de leur propre redéploiement, de leur propre vision stratégique. Et c'est vrai que un pays comme la Thaïlande manque sérieusement de points de vue sur son propre développement.
Stéphane Colliat, sur ces économies africaines, vous disiez tout à l'heure que l'Afrique du Sud et le Nigeria, je le rappelais moi-même dans le sommaire, allaient mieux, mais est-ce que leur objectif c'est de s'intégrer dans ces chaînes de production? Est-ce que c'est l'objectif qu'on doit leur assigner et que les gouvernements de ces pays-là doivent s'assigner à eux-mêmes?
À terme, oui. Après, il faut passer par les étapes successives. Donc, la première étape, c'est de commencer à produire des biens industriels pour beaucoup d'entre elles, qui restent quand même très agricoles ou plus largement très matières premières. Donc, du textile, par exemple, en Éthiopie, il faut passer par là. Mais être dans des chaînes de production et même en fin de chaîne, c'est sur l'automobile ce qu'est en train de faire le Maroc. 10% de la production d'automobiles de Renault se fait au Maroc. Donc ça c'est en cours. Ça va nous occuper dans les prochaines décennies. Donc on a aussi le temps d'en reparler. Mais ça suppose...
Oui, je serais peut-être pas là.
Si. Ça suppose beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche et développement. Et on voit que les pays africains font un effort qui progresse de plus en plus. Les premiers de la classe en Afrique sont pas loin de rattraper les derniers de la classe en zone euro. Le Kenya n'est plus très loin des dépenses de recherche et développement de l'Italie et d'Espagne, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait et qui sera positif pour l'intégration future dans les chaînes de production.
On va parler d'un dernier pays où ça va très bien. C'est l'Australie qui fête ce mois-ci un record. 26 années consécutives sans récession, sans subir les effets dévastateurs de la crise financière mondiale de 2008, grâce à un boom minier. Aujourd'hui, ce boom minier est fini, mais un autre s'installe, celui des infrastructures, en particulier de transport. C'est le grand chambardement à Sydney et à Melbourne en particulier, avec la construction d'un nouvel aéroport, l'expansion des réseaux routiers ou encore l'ouverture de nouvelles lignes de train de banlieue. À Murrumbeena, un quartier de Melbourne, un pont ferroviaire est en construction. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Caroline Lafargue à Melbourne.
Je vérifie juste que les clôtures du chantier sont bien fermées pour éviter que des gens s'introduisent sur le chantier. Sinon, si ça arrivait, il y aurait une enquête. On serait obligé de suspendre les travaux.
Chaque nuit, Andrew Harrison, employé d'un grand groupe de construction australien, arpente le chantier de la gare de Murrumbeena à Melbourne. Homme à tout faire, il est surtout chargé d'assurer la sécurité des ouvriers et des riverains. Il patrouille au pied de deux immenses grues à portique qui soulèvent des voussoirs de béton armé pour former, bout à bout, un pont ferroviaire. C'est l'un des plus gros chantiers de Melbourne actuellement. Il permettra de supprimer quelques-uns des 50 passages à niveau qui paralysaient la circulation dans la ville. Car comme à Sydney, la population augmente très vite à Melbourne, plus 1 million d'habitants ces 10 dernières années. Conséquence, il faut moderniser les infrastructures de transport et vite. Ce projet ferroviaire va créer 4500 emplois sur 8 ans. Une légion d'ouvriers, d'ingénieurs, de géomètres colorent les rues de Melbourne dans leurs uniformes orange fluo. Ils construisent l'Australie du futur et touchent des salaires faramineux. C'est ce qui a attiré Andrew Harrison. L'année dernière, il a revendu son entreprise de réparation automobile pour rejoindre le chantier de Murrumbeena.
They offered me really good money and
Ils m'ont offert un très, très bon salaire. On est rémunéré en fonction des risques liés au travail. Et mon job est très dangereux. Je travaille le long d'une voie ferrée. Je risque d'être tué tous les jours ou blessé. Donc je suis très bien payé. Normalement, c'est 34 euros de l'heure. Mais vu que je travaille de nuit, je suis payé le double.
Les investissements dans les infrastructures de transport ont fait un bond de 73% en un an en Australie. Des centaines de chantiers sont en cours dans tout le pays, d'une valeur totale de 67 milliards d'euros. Et grâce à ce boom, le secteur de la construction est l'un des rares qui offre des hausses de salaire. Andrew Harrison.
On va être augmenté de 20% sur les 4 prochaines années. C'est vraiment pas mal, parce que c'est 2,5 fois plus que le taux d'inflation. En Australie, le salaire moyen, c'est environ 40 000 à 47 000 euros par an. Un chirurgien qui opère dans un grand hôpital doit gagner environ 134 000 euros. Alors que nous, dans le bâtiment, on peut facilement atteindre 200 000 euros par an. Donc il est fort probable que cela suscite l'animosité du reste de la population, qui trouve que nous sommes surpayés. Je veux dire, j'ai déjà travaillé bien plus dur pour bien moins d'argent. Mais voilà, c'est la vie.
En Australie, les employés du secteur du bâtiment sont rois dans une économie qui donne par ailleurs des signes d'essoufflement en proie à la baisse des exportations et des investissements et à la hausse de l'inflation qui freine l'augmentation des salaires. Mais le boom des infrastructures pourrait continuer à tirer la croissance australienne. Il durera plus longtemps que le boom minier, prédisent les économistes, environ 10 ans.
Reportage signé Caroline Lafargue à Melbourne. Ces salaires colossaux, est-ce qu'ils sont le reflet d'une économie qui va bien ou qui va mal, Benjamin Coriat? qui est en surchauffe.
Je pense que c'est clairement l'indication d'une surchauffe. Bon, l'Australie a bénéficié pendant très longtemps d'une position très particulière, hein, c'est-à-dire que bon, c'est un pays continent avec d'immenses ressources minières, peu de population et en plus une bonne localisation par rapport à la Chine, par rapport aux grands investisseurs et aux grands consommateurs de matières premières de l'Asie. Bon, je pense qu'ils vont continuer à bénéficier de cette situation, mais ce dont fait état le reportage, c'est clairement des éléments de surchauffe et il y a beaucoup à craindre. Enfin voilà.
200 000 euros pour un ouvrier, ça fait rêver, Stéphane Collia.
Oui.
Ça fait rêver. Après, en parallèle, la note positive que je retiens quand même du reportage, c'est que c'est l'urbanisation. Donc ça peut aller trop loin, on peut trop payer les gens. Bon, lui, il pense qu'il n'est pas trop payé, probablement. Mais l'urbanisation, c'est aussi le facteur de croissance majeur qu'on peut avoir, qu'on a eu en Europe à la fin du 18e siècle et au cours du 20e, et qu'on aura en Afrique à l'avenir. Donc il ne faut pas non plus tout noircir. Cette urbanisation, c'est quand même très positif et ça explique aussi une croissance qui est soutenable dans ses aspects de long terme.
Eh bien, c'est sur cette note positive et sur ce salaire mirifique, 200 000 euros par an pour un ouvrier de travaux publics, que se termine cette émission. Guillaume Munier l'a réalisée et mise en onde. Merci à vous, Benjamin Coriat et Stéphane Collia, d'y avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.